Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Le 11 avril dernier, le pape Léon XIV a lancé un vibrant appel pour la paix. Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent, assez des démonstrations de force, assez de guerre, a déclaré le pape lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre de Rome. Alors qu'il entamait une tournée en Afrique, le souverain pontife a ensuite été la cible de plusieurs déclarations virulentes de la part de Donald Trump. Le chef de la Maison-Blanche a jugé le pape faible et nul en politique étrangère. Le pape a dit qu'il n'avait pas peur de s'exprimer haut et fort sur le message de l'Évangile. Mais il a ensuite voulu apaiser les tensions avec Donald Trump en affirmant qu'il n'était pas dans son intérêt de débattre avec le président américain. Bonjour à tous, je suis Loïc Barrière. Coulisses politiques, c'est une émission et un podcast disponible sur votre radio, sur Spotify, radioorient.com et nos réseaux sociaux. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors Henri, nous allons revenir bien sûr sur les attaques de Donald Trump contre le pape. Mais avant cela, j'aimerais qu'on essaie de mieux connaître Léon XIV. Dès qu'il a été élu, le pape s'est réclamé de saint Augustin, l'évêque d'Hippone en Algérie, qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ. Le pèlerinage sur le site antique à Annaba a été l'un des temps forts de sa visite en Algérie. Saint Augustin est le saint qui avait appelé à l'union des cœurs. Qu'est-ce que la pensée de saint Augustin, l'un des pères de l'Église, nous dit de ce pape ?
Elle nous dit que c'est un pape qui accorde beaucoup d'importance au dialogue interreligieux, intercivilisationnel. Cette pensée, elle rappelle aussi que, certes, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, séparer le temporel du spirituel. Néanmoins, saint Augustin lui-même avait quand même théorisé en quelque sorte l'idée que l'Église n'est pas absente de la politique, de la vie, de la cité. Et que notamment, quand en quelque sorte les valeurs sont atteintes ou sont menacées, le spirituel a son rôle à jouer. Et c'est vraiment typiquement ce nouveau pape, parce que finalement, ça fait tout juste un an qu'il est là, un tout petit peu moins, il n'était pas encore très connu. On a presque l'impression de l'avoir, alors non pas découvert, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, de l'avoir approché de beaucoup plus près et dans une dimension peut-être plus importante à l'occasion de cette tournée en Afrique, et notamment de ses premiers pas, de ce première étape en Algérie, ce qu'on voit, c'est que c'est un pape qui s'inscrit résolument dans cette tradition augustinienne, comme vous le rappelez, c'est-à-dire d'une église qui, oui, se tourne quand il le faut vers la politique, vers le politique.
Alors j'imagine qu'il faudra relire les œuvres de saint Augustin, qui était un écrivain et un théologien, La Cité de Dieu, Les Confessions, peut-être pour se faire une idée de sa pensée. Mais de ce qu'on a pu voir pour l'instant, Henri, en quoi le pape Léon XIV se distingue-t-il de ses prédécesseurs, notamment du pape François ?
Alors le pape François, c'était une figure majeure en un terme qui est peut-être pas très catholique, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire que c'était un grand communicant. Quand François arrivait quelque part, quand il accomplissait un voyage, on se souvient, il avait toujours des formules, il avait des images assez chocs, et puis il avait endossé notamment ce combat extrêmement important pour les migrants. Et donc le pape François était vraiment là pour nous le rappeler à chaque occasion. Bien sûr, il le rappelait également aux autres sociétés très nanties comme les États-Unis, l'Amérique en général. Donc il y avait cet aspect très communicant. Et puis parfois, il était sévère, le pape François, il donnait des leçons. Bien sûr, on se souvient de Jean-Paul II, qui était un pape, alors pour le coup, lui, extrêmement politique. Le pape Jean-Paul II, on l'a assez dit, toute son action dans les années 1980 avait contribué à la chute du mur qui allait advenir, la chute du mur de Berlin qui allait advenir en 1989. Et puis surtout au réveil des peuples de l'Est, des pays de l'Est, et notamment son propre pays, la Pologne. Il avait joué vraiment un rôle important en disant aux gens partout, n'ayez pas peur. Et la parole de Jean-Paul II était extrêmement forte. Lui-même était très charismatique, sans doute le pape le plus charismatique de l'ère moderne. Entre les deux, il y avait Benoît XVI, qui était plus théologien. Et je pense que dans un premier temps, on a peut-être eu l'idée d'un Léon XIV qui serait davantage dans cette veine-là, c'est-à-dire c'est-à-dire d'un pape assez discret d'apparence, assez réservé. C'est pas quelqu'un qui a la parole comme ça, extrêmement forte, extrêmement facile. Néanmoins, vous avez rappelé ses prises de parole avant même son voyage en Afrique, donc dans quatre pays d'Afrique, hein, Algérie, Cameroun, Angola et Guinée équatoriale, pendant 10 jours, ce qui est très long, c'est vraiment un long voyage. Bien, juste avant, il s'était prononcé, là on en revient à la politique, pour bien rappeler ce que doit être une démocratie et comment doit se comporter le pouvoir dans une démocratie. C'est-à-dire que, surtout, ça ne doit pas être la tyrannie de la majorité. Et rappeler finalement aux dirigeants, aux gouvernants de tous les pays, en tout cas du moins des pays qui se réclament de la démocratie, qu'il faut quand même toujours agir avec justesse, avec sagesse. Donc déjà là, il y avait quand même une prise de parole qui était assez importante avant même qu'il entame son voyage. Et ce qui apparaît, c'est qu'il est peut-être moins pugnace, moins affirmatif qu'un pape François, mais il est quand même tout aussi ferme, et on reviendra bien sûr sur sa passe d'armes, enfin, si on peut dire, avec Donald Trump, mais tout aussi ferme sur ses principes, sur ce qu'il est, sur ce qu'est l'Église, et en même temps plus diplomate qu'un pape François.
Henri Vernet, le pape est le premier à avoir foulé le sol algérien, un voyage sous le signe du dialogue interreligieux. Il s'est rendu notamment sur les traces de saint Augustin, qui est son modèle spirituel. Qu'est-ce que vous retenez de son étape algérienne ?
Cette idée du dialogue interreligieux, de la réconciliation, d'ailleurs, ça m'a un peu frappé parce qu'il ne parle pas de pardon, lui, il parle de réconciliation entre les chrétiens, les musulmans, entre l'Occident, l'Orient. Et en Algérie, c'est ce qu'il a prôné, vraiment un langage de réconciliation, d'apaisement, de paix. Alors évidemment, dans une terre qui a été quand même déchirée d'abord par les conflits coloniaux et de décolonisation, et ça, évidemment, ça reste présent pour nous Français. Même si pour le coup, et d'ailleurs justement en ce moment où il y a quand même une relation extrêmement difficile, heurtée entre la France et l'Algérie, mais ça c'est pas la lecture du pape. Le pape c'est le Vatican, il n'arrive pas lui avec cette lecture-là. Néanmoins, il est quand même dans ce que lui-même appelle la réconciliation, dans la mesure où il est allé sur les différents lieux de mémoire liés donc à la fois à cette histoire longue et puis donc à l'histoire de la guerre civile. Hein, entre le pouvoir et les islamistes.
Avec en aussi Algérie, la mort et l'assassinat des moines de Tibérine.
Exactement, et donc il n'est pas allé à Tibérine, mais enfin les références étaient claires dans ses différents gestes et dans son discours. Donc il y a eu ça. Après, ce que j'en retiens aussi, c'est l'accueil que lui a fait l'Algérie, j'allais dire, plus que les Algériens. L'Algérie, dans la mesure où, par exemple, le président Tebboune s'est entretenu avec lui, sa visite a été largement couverte par les médias algériens, les journaux, beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos, et dans un sens très favorable, justement, en disant oui, il est temps de passer à cette étape-là. Après, il faut être honnête et réaliste, hein, il n'a pas déplacé les foules, c'est-à-dire que les spectacles, les images de stades remplis, d'avenues débordantes au passage d'un souverain pontife qu'on est habitué à voir lors de certains voyages, là, elles n'ont pas eu lieu. Et c'est pas étonnant, parce que d'abord, la communauté chrétienne et catholique en Algérie, elle est extrêmement, extrêmement minoritaire. C'est même pas 1% de la population, c'est peut-être 0,1%. Donc en réalité, ce sont quelques milliers de fidèles. Néanmoins, c'est vrai qu'elle pèse par disons, son importance, son influence. Mais donc, pas de liesse, pas de mouvement de foule. Mais là encore, le message papal, ça a été, et notamment, comme vous l'avez dit, lorsqu'il s'est recueilli à la basilique, sur les pas de saint Augustin, son mentor, mais c'est pas un politique, son maître à penser, enfin l'ordre auquel lui-même appartient, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il connaît l'Algérie et qu'il connaissait ces lieux auparavant. Son message, ça a été justement de dire à chacun: prenez, cultivez le dialogue avec l'autre, parce que c'est ça qui est important.
Alors, il y a quelques jours, le pape a estimé que la démocratie dépourvue de morale risque de devenir soit une tyrannie majoritaire, soit un masque dissimulant la domination des élites économiques et technologiques. Il a rappelé que la doctrine sociale de l'Église catholique ne considère pas le pouvoir comme une fin en soi, mais comme un moyen ordonné au bien commun. Il s'est également exprimé sur la paix lors de son étape au Cameroun, un discours qu'il a tenu en français. Je vous propose, Henri, de l'écouter.
La paix ne peut être réduite à un slogan. Elle doit s'incarner dans un style personnel et institutionnel qui rejette toute forme de violence. C'est pourquoi je le répète avec force. Le monde a soif de paix, assez de guerre.
Henri Vernet, vous venez d'entendre avec nous le pape prononcer ces mots « Le monde a soif de paix, assez de guerre ». Alors que le Moyen-Orient subit un conflit qui déstabilise le monde, forcément cela a un écho de tenir ces paroles-là dans ce contexte.
Oui, bien sûr, c'est un appel très résolu à la paix des armes. Hein. Alors, c'est vrai que son déplacement, son voyage a coïncidé avec les débuts éventuels de cessez-le-feu, mais bien sûr que lui, il est au-dessus de... Enfin, il n'est pas lié à ces contingences-là, et son discours est beaucoup plus général. Donc, bien sûr, on y voit vraiment une adresse directe aux fauteurs de guerre, hein, c'est-à-dire, en l'occurrence, à son compatriote Donald Trump, avec l'attaque américaine contre l'Iran, bien sûr également à Israël, hein, qui participe de cette guerre-là, et puis qui mène, aussi c'est le fait ou pas, qui mène une guerre au Liban. Liban où était tout récemment, enfin, c'était même le premier grand voyage du pape Léon avec la Turquie. Donc bien sûr qu'il a tout cela en tête et que son appel, il est très clair, il est à tous ceux qui sont donc des fauteurs de guerre, à ces dirigeants-là. Il les exhorte à revenir à la paix et à plus de sagesse donc dans la conduite des affaires. Après, il ne faut pas limiter ça à ces grands, j'allais dire, à ces grands conflits qui occupent toutes les unes de nos médias. Hein. Quand il a ce discours, sauf erreur, il l'a prononcé au Cameroun. Et au Cameroun notamment, il a mené une visite et donc, j'allais presque dire, une mission dans une région du Cameroun qui est travaillée par le séparatisme. Parce que le Cameroun, c'est vraiment un de ces pays qui résume l'histoire et les problèmes aujourd'hui de l'Afrique, c'est-à-dire colonisé par plusieurs puissances extérieures, avec donc des frontières très disputées, un pays où il y a plusieurs composantes, et ça on le retrouve souvent en Afrique, avec donc des séparatismes très violents. Et donc c'est aussi à tout cela qui s'adresse, et également aux guerres oubliées, et il n'en manque pas sur le continent africain, entre le Soudan, entre le Congo, enfin, c'est aussi tous ces théâtres-là qu'il a dans son spectre.
Henri, quand le pape dit « la démocratie dépourvue de morale risque de devenir une tyrannie majoritaire », c'est un message aussi qu'il adresse aux démocraties occidentales au moment où le populisme a le vent en poupe.
Oui, bien sûr, hein, ça c'est très clair. Et donc ce message, oui, s'adresse à la tentation populiste, mais donc aussi bien à ceux qui en sont les porteurs, c'est-à-dire les dirigeants, dont on a vu d'ailleurs que leur mainmise, leur emprise sur nos vieilles démocraties, quand je dis vieilles démocraties, je pense à l'Europe, finalement c'est pas une fatalité. On voit bien que Orban a été battu, le Premier ministre Viktor Orban en Hongrie, il a été battu, et donc il n'y a pas une fatalité à ce que ces populismes s'installent vraiment durablement. Donc c'est un message qui vaut également à travers le monde, hein, parce qu'en effet, on voit ces tendances à gagner. Mais ça ne s'adresse pas que aux dirigeants, ça s'adresse également aux nations, à nous, à tous les citoyens, à veiller à ce qu'on ne sombre pas dans des dérives comme ça. Je parlais tout à l'heure, et c'est lui-même, je crois, qui avait employé ces mots, à la tyrannie de majorité. Il faut aussi garder vraiment ce sens du buon governo.
Alors Henri, on va évoquer à présent la polémique qui a eu lieu il y a quelques jours entre le pape et Donald Trump. Je vous propose d'écouter le frère Jean-François Bourg, qui est délégué national pour les relations avec les musulmans à la Conférence des évêques de France. Il a été interrogé par François-Xavier de Calonne.
Je regrette cet emballement dans les propos. Quand on est, comme moi, prêtre dans l'Église catholique, on n'ignore pas qu'à toute époque, les papes, les évêques, par leurs paroles, dérangeaient. Voilà. Enfin, on peut au moins se souvenir de ça. Un pape n'est pas là pour complaire aux options, aux projets de tel ou tel leader politique dans le monde, fût-il lui-même donc un chrétien, et comme l'est M. Trump, et chef d'un État très important, voilà, la plus grande puissance sur la planète. Donc les papes ne sont pas là non plus pour dire ce qui leur plaît, ils sont là pour parler de l'Évangile, et le fait est que l'Évangile dérange. Il ne dérange pas que M. Trump, et M. Trump n'est ni le premier ni le dernier à être dérangé par l'appel d'un pape à construire la paix plutôt que de recourir à la violence.
Henri, vous avez entendu ce prêtre Jean-François Bourg dire que oui, l'Évangile dérange, et pas seulement Donald Trump. C'est assez inhabituel que le chef de l'Église catholique subisse des critiques virulentes de la part d'un président américain, des critiques qui ont été considérées par de nombreux catholiques comme irrespectueuses. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui a provoqué l'ire de Donald Trump et résumer un peu ses propos ?
Bah, très clairement, ce sont les critiques du pape contre, enfin, implicites ou même très claires contre ce qu'on disait tout à l'heure, contre la guerre en Iran. Mais déjà, le pape Léon s'était déjà montré très critique envers l'intervention au Venezuela, qui était elle aussi en dehors de tout droit international. Parce que quand ce religieux rappelait que le pape, il n'est pas là pour complaire au pouvoir dominant et que l'évangile dérange, bah oui, parce qu'a priori, l'Église et donc le pape qui est son vicaire, qui est son porte-parole, j'allais dire, planétaire, bah, il est là pour défendre plutôt les faibles, les opprimés, ceux qui la voient des sans-voix, comme on dit assez souvent, ceux qui n'ont pas vraiment voix au chapitre, en tout cas pas les moyens d'influer directement. Donc oui, par nature, il dérange, même si, alors là, je fais quand même une toute petite parenthèse, attention, l'Église elle-même n'est pas infaillible. On voit bien que sur bien des terrains, elle aussi a son autocritique à faire. Et quand vous disiez où je crois que c'était ce religieux qui disait tous les papes. Non, pas toujours. On a vu parfois des souverains pontifes qui étaient assez alignés avec des pouvoirs dominants, alors que ce soit pour le bien ou pour des causes plus, comment dire, beaucoup plus contestables. Mais c'est vrai qu'à ce point-là, l'opposition frontale entre Trump et Léon, là, c'est frappant. Mais d'abord, parce que président Trump, on le voit bien sur tous les terrains, il est totalement hors norme. Il dit absolument ce qui lui passe par la tête.
Il est sans filtre.
Horreurs, il est absolument sans filtre. C'est sa manière d'être, sa manière de faire. Ça ne dit pas d'ailleurs pour autant qu'il soit fou. C'est vraiment que c'est la méthode qu'il s'est choisie. Et le fait est que bah, sur bien des terrains, elle marche dans la mesure où il bouscule tout. Donc oui, ça, c'est inhabituel que ce soit à ce point. Voilà. Alors c'est vrai que avant même ces critiques implicites ou explicites contre la guerre en Iran, le pape avait déjà froissé Trump. C'était ce personnage ne lui plaisait pas parce que le milliardaire américain le prend pour un marxiste. Hein, il l'a dit. En gros, ce pape, au début, alors c'était pas directement lui, c'était une proche de la Maison Blanche, influenceuse de la droite dure MAGA, qui avait traité ce pape de marxiste hein, dès l'origine. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'était vraiment pas arrangé dans l'obédience trumpiste. Donc dès le départ, j'allais dire, c'était mal parti. Et puis vous savez, il y a quelque chose de tout simple, hein, c'est que Trump, il y a aussi une question d'ego. Trump, il ne supporte pas qu'un autre Américain que lui soit ainsi au devant de la scène planétaire. Ça, c'est quelque chose qui le heurte.
Ça compte, la nationalité américaine du pape Léon ?
En l'espèce, oui. En l'espèce, ça compte parce que finalement, on n'oublie pas quand même qu'il est américain. Bah, d'abord, ne serait-ce que parce qu'il s'exprime en anglais, ce qui est quand même de mémoire, c'est très rare pour un pape. Hein, que ce soit la langue maternelle, c'est une première. Et même parfois, ceux dont ce n'était pas la langue maternelle ne maîtrisaient pas vraiment cette langue, ce qui fait que on n'avait pas l'habitude d'entendre ainsi des discours. Et donc, ça compte. C'est un message qui est donc radicalement, non seulement différent, mais même opposé à celui de Trump. Et donc, il prend d'autant plus d'importance que, bah oui, il est américain. Et donc, on accorde encore plus d'intérêt à ce propos. Et quand ce propos dérange, vient heurter la politique de Trump, bah oui, ça compte beaucoup.
Mais Donald Trump est tout de même allé très loin, puisqu'il est allé jusqu'à diffuser un montage où il se prend pour Jésus message qu'il a ensuite supprimé.
Alors c'est ça visiblement aussi qui effraie, qui horripile l'Église, d'ailleurs pas que l'Église hein, bien sûr, mais comme là on parle du pape, c'est justement cette façon que Donald Trump lui-même, mais également son entourage, hein, les J.D. Vance, les Pete Hegseth, hein, Vance vice-président, Hegseth ministre de la guerre maintenant, c'est-à-dire c'est le patron du Pentagone, la manière dont ils ont de récupérer de cette aura chrétienne, alors pas forcément catholique, parce qu'eux-mêmes en général sont plutôt baptistes ou évangéliques.
Mais J.D. Vance est catholique.
Oui, il est converti récemment catholique. C'est pour ça d'ailleurs que de manière totalement grotesque, il s'est permis de donner l'autre jour une leçon de théologie au pape, en lui disant qu'il devrait être prudent quand il parle de théologie. C'est-à-dire que J.D. Vance, vice-président américain, politicien américain, pourrait-on dire, explique au pape comment on doit mener la théologie. On peut quand même penser que Léon XIV ait des idées plus précises que lui sur ce terrain, mais ça dit quand même l'absence totale de surmoi de ces dirigeants américains qui profèrent absolument n'importe quoi. Par exemple, regardez ces prières collectives tous ensemble dans le bureau de la Maison Blanche au moment de Pâques, la manière de parler d'une armée donc l'armée américaine, en gros, qui est bénie, quoi, qui mènerait presque une sorte de croisade, et ça c'est totalement revendiqué. Regardez par exemple, je citais tout à l'heure à l'instant Pete Hegseth, donc le ministre de la guerre, enfin le chef des armées disons, qui s'est même lancé dans des tirades, dans des prêches, hein, pour justifier à la fois, vous savez, la récupération du pilote américain et puis plus tard une autre, des actions de l'armée américaine dans le Golfe, hein, et en sortant des tirades l'Ézéchiel, l'Éternel, et en réalité tout ça était tiré non pas du tout de la Bible mais d'un film de Tarantino, Pulp Fiction. Donc voilà où on en est, et ça bien évidemment c'est totalement outrageant pour le monde entier en réalité.
Et ces outrances des dirigeants américains visant le pape Léon, est-ce que finalement ça n'aide pas ce chef de l'Église catholique à incarner son rôle de guide spirituel des chrétiens?
Oui, ça l'aide carrément. Et d'ailleurs, on peut dire que finalement, cet affrontement direct avec le président américain, finalement, ça le met sur un piédestal sur lequel il n'était pas encore. Hein. D'un seul coup, il devient extrêmement connu et extrêmement populaire, le pape Léon XIV. Donc oui, quelque part, ça l'aide. Et par ailleurs, ça le sert, comme vous disiez également dans le message, au-delà donc des chrétiens, mais des autres religions, également des gens athées, parce que finalement, c'est un message assez universel. Et d'ailleurs, il faut bien noter que le pape lui-même, quand on en faisait trop sur ce duel, sur ce match, mais enfin, affleuré, pas du tout moucheté, entre les deux hommes, entre les deux dirigeants, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le pape, c'est aussi un chef d'État, hein, un État petit, mais enfin, et surtout sans armée, hein, comme disait Staline, le pape, combien de divisions? Ben non, en effet, zéro, mais quand même, hein, des divisions spirituelles, pourrait-on dire, une influence. Et donc, à trop mettre ce duel en scène, il ne faut pas oublier que le message est beaucoup plus universel. Et donc, Léon XIV, dans un de ses discours en Afrique, il a tenu à préciser que quand il parlait des tyrans, des fauteurs de guerre, il ne pensait pas, il ne visait pas exclusivement Donald Trump. Il ne le visait pas d'ailleurs nommément, et il ne pensait pas à lui. C'était plus large que cela, parce qu'en effet, lui, il reste quand même sur l'idée d'un message universel.
Alors, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, la France a jugé inacceptable les critiques américaines contre Léon XIV. Ces propos ont choqué dans de nombreux pays. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, n'a pas du tout apprécié les critiques de Trump contre Léon XIV. Trump, dont elle est pourtant proche.
Oui, dont elle est proche, mais enfin là, elle lui a très vertement fait savoir qu'on ne touche pas au pape. Hein. D'ailleurs, il y a un proverbe italien, en tout cas romain, qui vient de la Curie et qui dit « qui mangia papa muore », c'est-à-dire celui qui s'en prend au pape, qui menace le pape, meurt. Hein. Donc c'est très présent dans la mentalité italienne, parce que c'est quand même c'est le pays. Hein,
c'est un pays Vatican, que vous connaissez bien.
Que je connais bien, d'une part, mais surtout pour qui ces choses-là ont une importance énorme, ne serait-ce que le Vatican, le pape, c'est Rome, hein, la ville éternelle. Et donc, Giorgia Meloni, elle a vraiment réagi de manière très forte, beaucoup plus forte que Jean-Noël Barrot. Elle a dit que c'est totalement inacceptable. En gros, le pape, on n'y touche pas, quoi. Et alors, c'est vrai, vous faisiez état de cette relation. Mais enfin, ça fait déjà un certain temps que, en fait, Giorgia Meloni, à un moment, elle a pensé qu'elle était qu'elle pourrait être, en tout cas, l'interlocutrice privilégiée en Europe, surtout avec un Orban pâlissant avant même sa défaite tout à fait récente. Donc, elle pourrait être vraiment le pont entre l'Europe et les Européens et Donald Trump. Elle avait été invitée, d'ailleurs, elle-même à Mar-a-Lago, hein, donc la résidence de Wicca, enfin, la floridienne de Trump. Et puis, tout ça se veut effriter assez vite, d'abord parce que Trump ne l'a pas davantage ménagé que les autres dirigeants européens. Et puis, d'autre part, il y a même eu des affrontements, je veux dire, diplomatiques. Hein. Par exemple, quand elle a refusé l'utilisation d'une base en Sicile, d'une base de l'OTAN en Sicile, pour des missions militaires contre l'Iran. Donc, il y avait déjà, on pourrait être de la friture sur la ligne, si on peut dire. Et évidemment, cette attaque contre le pape n'a pas arrangé les choses.
Pour terminer, Henri Vernet, on a parlé de Saint-Augustin comme source d'inspiration pour le pape Léon XIV. On a évoqué ses tensions avec Donald Trump. Ce pape, il en est au début de son pontificat. Il a été élu à un âge relativement jeune pour un souverain pontife. Qu'est-ce que vous avez pu noter dans sa personnalité, dans sa façon de diriger l'Église ?
Bah c'est vrai, il arrive, il a 70 ans, donc a priori, il a quelques années devant lui de pontificat. Qu'est-ce qu'on peut noter ? Bah, ce que je disais un peu au début, c'est-à-dire cette fermeté. Hein, c'est quelqu'un qui campe droit dans ses bottes. Il affirme les choses, il les dit, tout en restant, comme on le soulignait au début de l'entretien, diplomate. C'est-à-dire qu'il sait quand même, par exemple, je vous disais, il n'a pas ces tirades sur les migrants que pouvait avoir son prédécesseur, mais quand même, il rappelle bien que certes, il y a le droit des États, et ça, bon bah oui, ça peut se respecter, mais il y a aussi les droits, justement, humains, et donc la dignité des migrants. Sur plein de terrains, il est comme ça, quoi. Il affirme les choses, il le fait tranquillement. Bah d'ailleurs, la preuve, la manière dont il a dit « non, moi, j'ai pas intérêt à rentrer dans un débat direct avec Trump », il l'a exprimé comme ça. Mais en même temps, à chaque fois que ce président, donc son compatriote, va trop loin, eh ben, il le fait savoir, il le remet à sa place. Il délivre, par exemple, dans les différents pays d'Afrique, Cameroun, Angola, Guinée équatoriale, il rappelle quand même aux dirigeants à quel point la sagesse de gouvernement dont on parlait là aussi tout à l'heure, eh ben, ça passe par exemple par la lutte contre la corruption, par une bonne redistribution des richesses, hein, parce que parfois ce sont des pays qui n'en manquent pas, comme en Angola par exemple. Or, elles sont extrêmement mal réparties, le peuple souffre. Et donc tout ça, il le rappelle avec cette espèce de fermeté tranquille, diplomate. Il fait pas d'esbrouf, mais il est là, j'allais dire, calme et droit.
Merci, c'était Coulisses politiques avec le journaliste et écrivain Henri Vernet, un podcast disponible sur Spotify et sur radioorient.com.
C'était Coulisses politiques avec Henri Vernet.